Vous allez chanter avant de passer au message. Bien. Nous allons maintenant finir un peu notre lecture. Je vais vous lire juste les premiers versets du chapitre 5 qui termine la lecture que nous avions commencé tout à l'heure. Donc Lévitique, maintenant, nous avons lu le chapitre 4, et on va lire les 13 premiers versets du chapitre 5. Et si ça vous semble un peu laborieux, c'est bien, parce que comme ça vous pouvez comprendre ce que c'est d'être sous ce fardeau du judaïsme, qui était censé être un fardeau, un joug que personne ne pouvait supporter. Le joug de la loi était censé apprendre aux hommes que nous avions besoin d'un libérateur. Nous lisons donc. Lorsque quelqu'un, après avoir entendu la formule d'adjuration en tant que témoin, n'aura pas déclaré ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera le poids de sa faute. Maintenant, on va lister quelques péchés qui peuvent mener au besoin d'offrir ce sacrifice de purification dont le premier exemple est là dans le verset 1. Lorsque quelqu'un, sans y prendre garde, touchera une chose impure, quelconque, que ce soit le cadavre d'un animal pur ou celui d'une bête domestique impure ou bien celui d'un reptile impur, ce qui était interdit même de toucher, pendant l'Ancien Testament, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine dont le contact rend impur et qu'il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère et sans y prendre garde de quelque manière que ce soit, jure de faire du mal ou du bien et qu'il s'en aperçoive plus tard qu'il sera coupable sur un de ces points. Donc, parole irréfléchie. Celui donc qui se rendra coupable sur l'un de ces points confessera son péché à ce sujet. On a besoin de confesser. C'est un sacrifice de repentance aussi. Puis, il présentera à cause de sa culpabilité envers l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis, une chèvre ou une chèvre, comme sacrifice pour le péché, ou aussi appelé, meilleur terme, sacrifice de purification. D'accord? Parce que tous les sacrifices sont pour le péché, mais sacrifice de purification, on va retenir ce terme. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas en main de quoi se procurer une pièce de menu bétail, il offrira à l'Éternel pour le péché dont il s'est rendu coupable deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui offrira d'abord celui qui doit servir de sacrifice de purification, et qui lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Nous avons parlé de cela il y a quelques semaines. Le sacrificateur fera sur la paroi de l'autel l'aspersion du sang de la victime offert pour la purification, pour le péché, et le reste du sang sera exprimé sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice de purification. Il fera de l'autre oiseau un holocauste selon la règle, dans le chapitre 1. C'est ainsi que le sacrifice fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis. Et cette phrase qui est presque un refrain, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il est vraiment pauvre, vraiment, vraiment pauvre. Il présentera en oblation pour son péché une dixième d'épha de fleurs de farine comme sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d'huile dessus. Ce n'est pas une offrande comme dans le chapitre 2. C'est un sacrifice de purification. Donc pas d'huile qui représente le Saint-Esprit parce que cette offrande représente plutôt son péché. Il ne mettra pas d'huile dessus et n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice de purification. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une pleine poignée comme mémorial et la brûlera sur l'autel par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de purification. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation de son péché qu'il a commis sur l'un de ses poings et il lui sera pardonné. Ce qui restera sera comme l'offrande pour le sacrificateur. Bien. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 et verset 5, au sujet des sacrifices de Lévitique que nous avons lu, on nous dit « Ceux qui présentent les offrandes selon la loi, donc de l'Ancien Testament, célèbrent un culte, et puis il parle l'image et l'ombre des choses célestes. Donc ces choses sont une image et une ombre des choses célestes que Christ est venu accomplir. Ou bien dans Hébreux chapitre 10, verset 1, on nous dit que les rites sacrificiels de l'Ancien Testament, je cite, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. D'accord ? Une ombre, une préfiguration, mais qui ne correspond pas complètement. Par exemple, vous avez une multiplication de sacrifices tous les jours, alors qu'en réalité, c'est le seul sacrifice du Christ, une fois pour toutes, qui purifie l'âme. Donc voilà une différence. Ce n'est pas l'exacte représentation de Christ, mais une préfiguration. Dans les trois premiers chapitres de Lévitique, nous avons les trois sacrifices volontaires. Rappelez-vous qu'il y a cinq sacrifices dans l'Ancien Testament, dont trois sont volontaires et deux obligatoires. Et donc nous allons sauter le troisième chapitre, nous allons revenir dans les semaines à venir. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice de paix ou de communion. C'est un sacrifice volontaire, mais nous allons le mettre à la fin des cinq parce que nous allons étudier ce sacrifice un peu plus dans l'ordre où on les fait vraiment. Ok ? Ici, l'ordre dans Lévitique, ce n'est pas l'ordre de la procédure elle-même, c'est un peu l'ordre logique. Donc, on met les trois sacrifices volontaires et puis les deux sacrifices obligatoires. C'est normal d'écrire comme ça parce que c'est un manuel d'emploi et c'est plus logique de les séparer comme ça. Mais nous, nous allons étudier un peu plus dans le sens de l'offrande elle-même. Je vous donne juste un exemple en lisant dans le chapitre 9 et le verset 22. On nous dit, Aaron leva ses mains vers le peuple et bénit, puis descendit après avoir accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Vous voyez, le sacrifice de paix ou de communion que nous soutenons aujourd'hui vient en dernier. Parce que c'est un sacrifice qui montre que je suis maintenant en paix, en communion avec toi. Et l'adorateur, vous, toi, le juif, toi, tu manges une partie de ton offrande. C'est la seule fois dans les cinq sacrifices où tu as une portion de l'offrande pour toi-même, parce que c'est un sacrifice de communion. Dieu a sa part, toi, tu as ta part, et on est à table ensemble. Donc, nous allons mettre ce sacrifice à la fin pour garder un peu plus dans l'ordre chronologique. Bien, mettez-vous un peu dans la peau d'un juif pendant l'Ancien Testament. Dans la loi de Moïse, il y a plein de règles. Il y a plus de 600 lois à garder, dont beaucoup de lois cérémoniales qui n'existent plus dès que le Christ vient. Ce sont des ombres, ce sont les préfigurations qu'on n'a pas besoin lorsque la réalité vient. Mais par exemple, tu ne peux pas manger certains animaux parce que certains animaux sont impurs. Lesquels ? Ceux qui ont affaire avec la mort, les animaux carnivores, sont impurs, pour montrer que la mort ne devait pas exister. Ou les animaux qui ont un aspect dans leur corps qui sort de l'ordinaire de leur espèce. Par exemple, les animaux qui avaient le sabot fondu, le pied fourchu et qui ruminaient, c'était des animaux purs qu'on pouvait manger. Parce que la plupart dans cette espèce sont comme ça. La vache, etc. Mais si tu avais un animal de cette espèce qui ruminait mais qui n'avait pas le sabot fondu, tu ne pouvais pas le manger, il est impur comme le porc. D'accord? Il sort de l'ordinaire. Il est l'image de quelque chose qui est tordu, qui est venu détraquer. D'accord? Si un insecte mort tombe dans ton assiette au petit déjeuner, c'est là, tout ce qui est mort est impur. Tu ne touches pas à ton bol de céréales, tu es obligé de le jeter. Mais si l'insecte tombe sur toi, tu dois faire des ablutions, des rites de purification. Imaginez, tu ne peux pas mélanger certains ingrédients en faisant la cuisine ou en faisant des parfums ou de l'encens dans la maison. Tu ne peux pas aller dans certains endroits, tu ne peux pas toucher un cadavre. Si tu dois en toucher parce que c'est un proche qui est mort, tu dois suivre des rites de purification après. Tu dois observer certains jours de la semaine, certains jours du mois, certains jours de l'année d'une certaine façon. Tu dois faire certaines choses précises avec les prémices de la récolte. Une cuillère que tu emploies pour une chose ne peut pas être employée pour autre chose. Et tout cela pour apprendre très concrètement la différence entre ce qui est saint, ce qui est mis à part, ce qui appartient à Dieu seul, et ce qui est propre, saint, propre, impur. Ce qui est propre, ce qui est à l'homme, à l'usage profane mais légitime, et ce qui est impur, ce qui est touché par le péché et ses conséquences. Donc par ces règles, Dieu nous apprend en tant que juif dans l'Ancien Testament qu'il est pur, qu'il est saint, que l'impureté ne peut pas exister dans sa présence. Et il nous apprend aussi qu'il est le Dieu qui purifie et qui pardonne. Donc nous regardons sur votre fiche, le sacrifice et son déroulement après cette introduction. Mais regardez sur le dos de la fiche. Là, vous avez un schéma du tabernacle et qui est situé de manière géographiquement correcte, c'est-à-dire le nord est ici, l'est est ici, vers le mot camp, et c'est ici qu'il y a l'entrée au tabernacle à l'est. Et donc, vous avez l'autel de l'Holocauste, des Holocaustes, où ces Holocaustes sont faits. La cuve d'airain pour les lavements. Et puis, vous avez donc ce lieu saint avec deux salles, deux parties. La première partie, qui est un rectangle, est le lieu saint. Il est un rectangle parce qu'il est moins parfait que le Saint des Saints qui est carré. Tous les côtés se correspondent. Et donc vous avez la perfection. Mais cette partie est un rectangle moins parfait à la ressemblance du tabernacle lui-même. Et à l'intérieur, vous avez entre autres l'autel des parfums qui brûle de l'encens. Cet encens monte et va au-delà du voile qui sépare les deux chambres et remplit le Saint des Saints du nuage afin que le sacrificateur, le souverain sacrificateur ne puisse pas voir lorsqu'il entrera une fois par l'année parce qu'il n'est pas permis de voir la présence glorieuse de Dieu. Et vous avez l'article le plus saint de tout le tabernacle, c'est l'Arche de l'Alliance qui représente le marchepied de Dieu. Et donc le trône de Dieu est là. Voilà. Bien, donc nous allons parler du déroulement de ce sacrifice de purification. Vous avez vu que dans les études précédentes, par exemple pour l'Holocauste, le chapitre 1 est structuré donc selon le sacrifice que tu donnes, l'animal que tu portes et sa valeur. D'accord? Ici, ça va être différent. Ça va être structuré non pas selon l'animal que tu donnes, mais selon celui qui a commis le péché. Vous avez entendu dans la lecture de David et Daryl, on parlait si c'est le sacrificateur qui a péché, si c'est la congrégation qui a péché, si c'est le juif ordinaire qui péchait. Et donc, ce sera aussi structuré selon la manière dont le sang est manipulé. C'est ça la clé dans le sacrifice de purification. C'est la manière dont le sang est manipulé et ça change selon la personne qui a péché. Les occasions où ce sacrifice devait être offert. Nous sommes juifs dans l'Ancien Testament. C'est un sacrifice obligatoire pour toi. Si tu as péché, tu dois offrir un sacrifice de purification. Mais seulement si tu as péché involontairement, par inadvertance, par mégarde. Vous avez vu cette répétition dans le passage. Avec quelques petites exceptions, si tu pèches contre les biens de quelqu'un, volontairement, ce sacrifice peut être utilisé. Mais qu'est-ce qui arrive si tu pèches volontairement contre la personne elle-même? Si tu tues, si tu commets l'adultère. La Bible, l'Ancien Testament nous dit qu'il n'y a pas de sacrifice pour ces péchés-là. Ni contre Dieu directement et volontairement, c'est un blasphème, ni contre l'homme. Tu dois porter toi-même ta punition. Et dans certains cas, c'est la peine capitale dans l'Ancien Testament. Parce que ça préfigure le jugement dernier. Maintenant, il y a deux sortes de sacrifices qu'on doit offrir si on a péché. Il y a le sacrifice qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle le sacrifice de purification. Et son accent est sur le fait que toi-même, tu t'es pollué en péchant et tu as besoin d'être purifié dans ta personne. C'est ta personne qui est mise en relief dans ce sacrifice. Et la propitiation vis-à-vis de Dieu. Dans l'autre sacrifice que nous étudierons la prochaine fois, ce qui s'appelle le sacrifice de réparation, l'accent est sur l'acte isolé, pas sur ta personne polluée, mais sur l'acte isolé que tu as commis contre un prochain. Et l'accent est aussi sur la réparation. Parce qu'avec le sacrifice d'animal, il va falloir que tu donnes quelque chose à la personne que tu as, contre qui tu as péché. Si tu as volé une vache, il va falloir que tu lui rendes deux vaches. Une vache pour lui remettre dans sa situation originale et une vache pour que tu subisses ce que tu l'as fait subir. C'est-à-dire, j'ai perdu une vache. Comme je lui ai fait perdre une vache. Voilà. Donc, ce sont les deux sortes de sacrifices, quand on a péché. Et nous allons voir que chaque fois, on n'aura pas le temps d'étudier chacun des cas que vous avez entendus dans la lecture, mais il y a l'occasion qui a provoqué le besoin de sacrifice. Il y a la personne rendue coupable, il y a le rite à accomplir, et puis à la fin, il y a le prononcement du pardon, chaque fois. Sauf une fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un des cas, on ne dit pas, et le sacrificateur fera l'expiation et il sera pardonné. C'est lorsque le sacrificateur lui-même est celui qui a péché. Simplement parce que dans les autres cas, le sacrificateur peut prononcer le pardon, hein, et donc il ne pardonne pas, le verbe est au passif, il sera pardonné, c'est Dieu qui pardonne, mais le sacrificateur sort du tabernacle et bénit le peuple ou bénit la personne, l'expiation a été acceptée, tu es pardonné. Mais lorsque c'est le sacrificateur lui-même, il ne peut pas faire ça pour lui-même. Donc, il est pardonné, mais il ne peut pas jouer le rôle de celui qui prononce le pardon sur lui-même. D'accord ? Ce n'est pas au criminel de dire que je suis pardonné. Donc, vous avez ce petit détail. Bon, regardons les différents cas de figure. D'abord, il y a l'Israélite ordinaire. Qu'est-ce qu'il doit offrir ? Regardez le verset 27 et 28. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en commettant contre l'un de ses commandements de l'Éternel des actes illicites, il présentera en oblation une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Une femelle, une brebis, sans défaut. Si c'est un prince, c'est-à-dire un chef tribal, on y dit dans le verset 22 et 23, regardez. Je lis le verset 23, il présentera en oblation un bouc mâle. Une femelle, si tu es juif ordinaire, un mâle, si tu es leader du peuple. Pourquoi ? Simplement parce que si tu es prince, tu es une personne en position d'autorité. Ton péché est plus grave et ta position de personne en autorité doit être reflétée dans l'animal qui prend ta place. Donc un animal mâle. Si tu es juif ordinaire, tu n'as pas d'autorité dans la nation, mais tu es sous l'autorité. Et donc c'est la femelle qui te représente lorsque tu offres le sacrifice. Ça suit la structure de la famille. C'est le papa qui est le chef de la famille et la maman, le suit dans son action de mener. Et ensuite, il y a la possibilité que ce soit la congrégation entière. Regardez le verset 13. Le verset 13 nous dit, si c'est toute la communauté d'Israël, le mot communauté, ce n'est pas une très bonne traduction. Moi, je mets le mot congrégation. En fait, c'est une assemblée, presque comme un parlement en Israël. C'est une assemblée, un groupe de responsables dans la nation. C'est pour cela que vous avez cette confusion ici. Si, verset 13, si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché involontairement sans que l'assemblée s'en aperçoive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parlement a péché, mais lorsque l'assemblée, c'est-à-dire le peuple réuni pour adorer, on ne s'aperçoit pas. Parce que le culte se déroule, la présence de Dieu est là. Nous, on n'est pas au courant du péché des responsables. Et plus tard, les responsables s'en aperçoivent. Parce que c'est un péché involontaire. Ah, nous avons fait cela. Nous n'avons pas gardé tel rite comme il fallait. En ce moment, ces responsables doivent offrir un sacrifice de purification. Et le dernier cas de figure, c'est le sacrificateur lui-même. Qui pêche non pas en tant qu'individu privé, mais dans sa fonction. Ça, c'est le premier cas qui est présenté dans le chapitre 4. Et là, dans le verset 3, vous voyez qu'il doit présenter un jeune taureau. Donc l'animal le plus cher pour le sacrifice, parce que son péché est le plus grave. Pour les leaders, la congrégation, c'est aussi un jeune taureau, Parce que c'est très grave quand les leaders d'une nation pêchent. Et pour le prince, c'est un peu moins un chef tribal. C'est un animal moins cher et pour le juif ordinaire, vous pouvez offrir même des tourterelles, ainsi de suite. D'accord, ok. Donc ça, c'est les différentes cas de figure que nous avons là. Qu'est-ce que Dieu vous exige comme adorateur? Qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi? Tu dois apporter l'animal toi-même, verset 2, verset 8, verset 14. Tu dois appuyer lourdement sur sa tête. Le mot que nous avons dans notre traduction française n'est pas bon. Il imposera sa main sur la tête, mais le mot en hébreu veut dire appuyer lourdement. Rappelons-nous, vous mettez un fardeau sur cet animal qui va prendre votre place en mettant sur lui vos péchés. Et vous devez sentir le fardeau que vous mettez. Vous êtes en train d'écraser cet animal et vous le sentez que vous êtes en train de faire cela. Et donc, bien sûr, il y a cette identification, cette imputation de votre faute à l'animal lorsque vous lui appuyez la main. Troisièmement, vous devez vous-même égorger l'animal. La mort est une horreur et vous n'allez pas être dispensé. Nous avons tellement éloigné la mort de nous dans notre société moderne, n'est-ce pas? Les gens ne rencontrent pas la mort. Mais dans le système sacrificiel, l'adorateur doit lui-même égorger l'animal parce qu'il est responsable pour cette mort. Il doit voir de quoi il s'agit, la peine de son péché. Qu'est-ce que le sacrificateur doit faire? Tu fais ces trois choses. Lui, il doit faire deux choses. Il doit faire cette manipulation du sang et nous voulons essayer de comprendre ce qu'il va faire avec le sang dans ce sacrifice est unique par rapport aux autres sacrifices et ça change en dépendant de la personne qui a péché. Par exemple, si nous comparons à l'Holocauste, qu'est-ce que le sacrificateur fait avec le sang? Il répand le sang tout simplement autour de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle. Et ça s'arrête là. En allant plus loin, on devient dans une zone de plus en plus saint, d'accord? Plus en plus proche de Dieu. D'accord, qu'est-ce qu'il doit faire le sacrificateur? Il recueille le sang dans un bassin. C'est pour ça qu'il faut égorger, parce qu'on peut facilement recueillir le sang. Deuxièmement, il asperge une partie du sang en certains endroits qui diffèrent selon la personne et la faute. Et le reste du sang, il verse au pied de l'autel des holocaustes. Et nous allons voir juste deux cas de figure différents pour cette manipulation du sang. Nous allons d'abord prendre je crois, qu'est-ce que j'ai choisi? Le sacrificateur et puis le juif laïque. D'accord? Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que ça veut dire cette aspersion du sang ou cette manipulation du sang? Qu'est-ce que ça signifie? Parfois il doit gicler le sang, parfois il doit, avec son doigt, il doit mettre le sang physiquement quelque part. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, il est en train de purifier l'endroit que le sang touche. Et il est en train de mettre une tache permanente sur cet endroit qui dénote que cet endroit est purifié. Vous vous rappelez de la Pâque, quand les Juifs ont dû mettre du sang sur les linteaux des foyers? Alors, ce sang signifiait que ce foyer est purifié du péché par le sacrifice de l'animal, et c'est une tâche permanente que l'ange de la mort voit quand il passe. Maintenant, nous allons voit le sacrifice de la manipulation du sang pour le sacrificateur lorsque c'est lui qui pêche ou lorsque c'est tout le peuple qui pêche, parce que c'est la même manipulation. En gravité, c'est le même pourquoi. Vous pouvez comprendre pourquoi? Parce que quand le sacrificateur agit dans sa fonction, il représente tout le peuple. Et quand il pêche, il rend tout le peuple coupable. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il doit marcher tout le long du tabernacle, de l'est à l'entrée, jusqu'à entrer dans le lieu saint. Il a le sang, hein, qu'il a recueilli. Et il va aller jusqu'au voile qui sépare le lieu saint et le saint des saints. Et là, il va asperger, nous dit le verset 6, si vous voulez voir, il dit qu'il asperge le sang devant l'Éternel, je cite, devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Ensuite, le verset 7, il met du sang sur les cornes de l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est cette petite autel, on ne sacrifie pas un animal dessus, c'est un autel d'encens. C'est l'encens qui est brûlé là. Et c'est vraiment, symboliquement, c'est comme si cet autel appartenait à l'autre côté. Parce que son encens va à l'autre côté. Et lorsque le sacrificateur doit aller jusque-là et jeter le sang contre le voile et mettre le sang sur les cornes de cet autel-là, ça montre que le péché était tellement grave que ça souillait, ça polluait jusqu'au seuil de la présence même de Dieu. Et donc il doit aller jusque-là avec le sang. La faute est très grave, très polluante. Quand il met le sang sur les cornes, c'est parce que les cornes sont les parties qui s'élèvent le plus vers le ciel et qui sont donc le point de contact le plus proche de Dieu. Ensuite, il revient, il retraverse le tabernacle et il met le reste du sang au fond de l'autel des holocaustes. Donc vous pouvez voir que le plus urgent, c'est là. Il commence toujours là. Il doit purifier d'abord l'endroit qui est le plus proche de Dieu, de la présence de Dieu, et ensuite, il purifie la place où l'homme peut pénétrer. Maintenant, quel est le sens de tout cela? Il faut beaucoup d'explications, beaucoup de détails, mais quel est le sens? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Comment est-ce que cela nous touche? En Lévitique 15, 31, nous lisons ceci: Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Vous voyez que le problème qui demande le sacrifice de purification, c'est la pollution morale. C'est le fait de se souiller. Et puisque le tabernacle, toute l'histoire du tabernacle, c'est pour nous montrer que le plan de Dieu, et ça c'est un peu le centre de l'histoire de la Bible tout entière, cette histoire, c'est que le plan de Dieu, c'est de nous ramener dans sa maison, dans sa demeure, pour vivre dans sa présence. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le salut. Et le tabernacle représente cela en miniature. Mais le problème, c'est que lorsque nous péchons, nous qui sommes amenés à Dieu, nous souillons la demeure de Dieu. Et nous risquons de périr, de mourir, en souillant la demeure du Dieu saint où l'impureté ne peut pas exister, ne peut pas exister dans sa présence. Le danger donc est celui-ci, et le but du sacrifice de purification, c'est de purifier la demeure de Dieu, la tente de rencontre. cette tente où on rencontre Dieu, où on devrait vivre avec Dieu. Le problème, c'est que lorsque vous et moi, nous péchons, notre problème n'est pas simplement l'acte. Et les gens aujourd'hui ne comprennent pas du tout, mais pas du tout ce que c'est que le péché. Vous le comprenez quand quelqu'un va dire, ah oui, un péché dans le jardin d'Éden, et puis, regardez, ils sont bannis. Ils ne comprennent pas que l'acte lui-même est peu de choses. Mais le problème, c'est que l'acte mauvais, l'acte pécheur, souille, pollue, laisse des séquelles, change la condition durablement de la personne. Je voudrais vous donner quelques exemples. Voilà le garçon, il n'est même pas encore adolescent. Et un jour, avec des copains, on lui montre des images de vidéos souillées où les femmes sont traitées de manière où on ne veut même pas décrire ça en bonne compagnie. Et c'est juste une fois qu'il a accepté de regarder cette image. Un acte. Mais sa pensée, sa manière de penser aux femmes est souillée, est polluée. Pensez à cette femme qui a été violée, presque tuée, dans sa propre maison, par quelqu'un qui a fait intrusion. Le reste de sa vie, un seul acte qui n'était même pas le tien. Elle lutte contre les souillures. Terrible. Le sentiment de honte, le sentiment d'avoir été violée, polluée. Elle jette son lit carrément. Elle a envie de déménager. Parce que cet acte a été commis là. Elle ne peut pas supporter. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, une fois, il y avait des garçons qui utilisaient notre appareil de musculation qui était dans notre garage, dans une maison, dans une autre ville. Et j'ai entendu, j'étais très content d'accueillir ces garçons. Ils savaient qui j'étais, ils savaient que j'étais chrétien, que j'étais pasteur. Mais une fois, j'ai entendu un chant de rap depuis le salon. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé un de ces garçons en train de chanter un chant qui, dans les paroles, était au sujet du viol de sa propre mère. Un chant violent, un chant incestueux. Un chant souillé, terrible, horrible. Et là, j'ai perdu mon sang-froid. Et j'ai dit à ce jeune, ça fait 20 ans que j'ai essayé de créer un espace dans ce foyer où on entend ce qui est vrai, où ma famille et mes enfants entendent ce qui est pur. Ce qui est noble, ce qui peut être dit sans honte ailleurs. Et vous avez amené dans mon foyer cela. Vous voyez le problème. C'est un acte. On pourrait être tenté de dire, mais c'est lui qui l'a fait. Je ne l'ai pas fait. Ça m'affecte. Moi, je me sentais profondément, mais profondément violé. Qu'il savait ce que je représentais. Il savait ce que j'étais. Et je lui dis, tu dois partir, mais tout de suite. Vas-y. Là, je ne peux pas avoir ça dans ma présence et dans ma maison, dans la maison de ma femme. Donc ça, bon, plus tard, la réconciliation s'est faite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, cette personne aujourd'hui. Mais c'est juste pour essayer de vous dire, de vous donner l'idée de pourquoi Dieu dit que vous devez avoir un sacrifice, vous, qui vous polluez, vous, moi, nous, qui nous souillons par certaines pensées, par certaines paroles, par certains désirs, par certains actes, n'est-ce pas? Et donc la Bible nous dit que c'est dans la mort de Christ que définitivement nous sommes purifiés pour toujours. Je vais juste finir en disant que le sacrificateur doit aussi brûler ou manger des morceaux du sacrifice. La meilleure partie, vous avez lu, c'est expliqué en détail, toute cette partie de graisse dans les différents endroits doit être brûlée, c'est-à-dire donnée à Dieu. Car pour le juif, c'est la meilleure partie de l'animal. Et dans la plupart des cas, donc le sacrificateur mange le reste de l'animal. Et quand la congrégation qui a péché, ou le juif ordinaire que tu es, a péché, ou le prince a péché, et il voit le sacrificateur manger l'animal, le sacrificateur qui représente Dieu, il sait que le sacrifice a été agréé et qu'il est pardonné. Lorsque le sacrificateur lui-même a péché, il peut pas manger. Si vous remarquez, il ne mange pas. Il n'a aucune portion, aucune part. Parce que il ne peut pas, à cause de ses péchés, recevoir de quoi manger. D'accord? Dans chaque cas, le coupable ne reçoit aucune part de l'animal. Nous allons voir dans d'autres sacrifices, dans le sacrifice de la paix, l'adorateur reçoit une part et mange. Mais là, nous ne recevons rien, nous sommes le coupable, nous avons besoin tout simplement d'être purifiés. Je finis juste en disant que nous pouvons par là apprendre que personne n'est exempt de péché. Le prince, le président, les leaders, les responsables religieux, nous sommes tous dedans. Et nous avons tous, de la même manière, besoin d'un même sauveur. Deuxièmement, il y a certains péchés qui sont plus graves que d'autres. N'est-ce pas? Et quand nous sommes responsables et nous agissons avec une autorité qui vient de Dieu, il n'y a aucune autorité qui ne vient que de Dieu. C'est par la providence de Dieu que nous avons notre président, même si Dieu n'a pas voté pour lui. En fait, le Seigneur a dit que toute autorité gouvernementale est établie par Dieu. Dieu a voulu que les hommes ne vivent pas dans le chaos. Et même les gouvernements imparfaits sont là par la providence de Dieu parce que c'est mieux comme ça. Mais lorsque vous êtes leader, responsable, père, ministre, président, sacrificateur, pasteur, là, c'est bien plus grave de pécher. Et c'est pour cela que la Bible dit que beaucoup d'entre vous ne soient pas enseignants dans l'Église, parce que les enseignants subiront un jugement plus sévère. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous péchez, et si vous avez péché, il ne suffit pas de garder les commandements de Dieu pour réparer vos péchés. Ici, nous apprenons que ça ne marche pas. Vous vous êtes souillé, et ce que vous faites de bien maintenant n'enlève pas la souillure. Il faut la mort. Il faut la peine de la mort, parce que Dieu n'accepte pas le péché. Le péché doit être anéanti. Et la dernière chose, c'est que l'expiation de Jésus est infiniment meilleure que ces sacrifices d'animaux différents, n'est-ce pas? Parce que là, il faut les refaire et les refaire chaque fois qu'on pêche. Et ça ne marche que pour les péchés par inadvertance. Or, mes péchés les plus graves sont mes péchés volontaires. Or, la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que le sang de Christ, je cite 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, de tout péché. Et donc, nous sommes un peuple purifié. Et chaque fois que vous péchez, qu'est-ce qui arrive? Le sang de Christ vous purifie de ce péché. Vous retrouvez la communion avec Dieu en confessant, mais vous êtes purifié dès que vous péchez. Parce que sinon, vous êtes chrétien et puis pas chrétien. Vous êtes juste devant Dieu et puis pas juste. Non. Vous êtes légalement, vous êtes purifié devant Dieu et dans votre expérience chrétienne, vous vivez ça chaque fois que vous tournez vers Dieu et vous dites « Seigneur, pardonne-moi » et vous mettez ainsi la main sur la tête de votre Sauveur sur la croix. C'est lui qui a porté mes péchés. Nous pouvons vivre dans la demeure de Dieu sans problème. Sans aucun problème. Nous n'avons pas besoin de choses répétées, de quelque chose de nouveau chaque fois que j'ai péché, parce que Christ et sa mort suffisent pour toujours. Vous restez seulement dans la maison de Dieu, vous restez acceptable, vivant dans la joie de son salut. Nous allons chanter. Le numéro 36 dans le carnet.